Dès que la belle Madame Rabourdin daigna s'occuper de la fortune administrative de son mari, elle devina Clément des Lupeaulx et l'étudia pour savoir si, dans cette volige, il y avait encore quelques fibres ligneuses assez solides pour lestement passer dessus du bureau à la division de 8 000 à 12 000 francs. La femme supérieure crut pouvoir jouer ce roué politique. Monsieur des Lupeaulx fut donc un peu cause des dépenses extraordinaires qui s'étaient faites et qui se continuaient dans le ménage de Rabourdin. La rue du Faux, bâtie sous l'Empire, est remarquable par quelques maisons élégantes au dehors et dont les appartements ont été généralement bien entendus. Celui de Madame Rabourdin avait d'excellentes dispositions, avantage qui entre pour beaucoup dans la noblesse de la vie intérieure. C'était une jolie antichambre assez vaste, éclairée sur la cour et menant à un grand salon dont les fenêtres avaient vue sur la rue. À droite de ce salon se trouvaient le cabinet et la chambre de Rabourdin, en retour desquels était la salle à manger où l'on entrait par l'antichambre. À gauche, la chambre à coucher de madame et son cabinet de toilette, en retour desquels était le petit appartement de sa fille. Au jour de réception, la porte du cabinet de Rabourdin et celle de la chambre de madame restaient ouvertes. L'espace permettait de recevoir une assemblée choisie sans se donner le ridicule qui pèse sur certaines soirées bourgeoises où le luxe s'improvise aux dépens des habitudes journalières et paraît alors une exception. Le salon venait d'être retendu en soie jaune avec des agréments de couleur carmélite. La chambre de madame était vêtue en étoffe vraie perse et meublée dans le genre rococo. Le cabinet de Rabourdin hérita de la tenture de l'ancien salon nettoyé et fut orné des beaux tableaux laissés par le prince. La fille du commissaire-priseur utilisa dans sa salle à manger de ravissants tapis turcs, bonne occasion saisie par son père en les y encadrant dans de vieux ébènes d'un prix devenu exorbitant. D'admirables buffets de boules achetés également par le feu commissaire-priseur meublèrent le pourtour de cette pièce au milieu de laquelle scintillèrent les arabesques en cuivre incrustées dans l'écaille de la première horloge à socle qui reparut pour remettre en honneur les chefs-d'œuvre du XVIIe siècle. Des fleurs embaumaient cet appartement plein de goût et de belles choses, où chaque détail était une œuvre d'art bien placée et bien accompagnée, où Madame Rabourdin, mise avec cette originale simplicité que trouvent les artistes, se montrait comme une femme accoutumée à ses jouissances, n'en parlait pas et se contentait d'achever, par les grâces de son esprit, l'effet produit sur ses hôtes par cet ensemble. Grâce à son père, dès que le rococo fut à la mode, Célestine fit parler d'elle. Quelque habitué qu'il fût aux fausses et aux réelles magnificences de tout étage, des Lupeaulx fut surpris chez Madame Rabourdin. Le charme qui saisit cet asmodée parisien peut s'expliquer par une comparaison. Imaginez un voyageur fatigué des 1000 aspects si riches de l'Italie, du Brésil, des Indes, qui revient dans sa patrie et trouve, sur son chemin, un délicieux petit lac comme est le lac d'Horta au pied du Mont Rose. Une île bien jetée dans des eaux calmes, coquette et simple, naïve et cependant parée, solitaire et bien accompagnée, élégant bouquet d'arbres, statue d'un bel effet. Alentour des rives à la fois sauvages et cultivées, le grandiose et ses tumultes au dehors, au dedans, les proportions humaines. Le monde que le voyageur a vu se retrouve en petit, modeste et pur, son âme reposée le convie à rester là, car un charme poétique et mélodieux l'entoure de toutes les harmonies et réveille toutes les idées. C'est à la fois une chartreuse et la vie. Quelques jours auparavant, la belle Madame Firmiani, l'une des plus ravissantes femmes du faubourg Saint-Germain, qui aimait et recevait Madame Rabourdin, avait dit à des Lupeaulx, invité tout exprès pour entendre cette phrase, « Pourquoi n'allez-vous donc pas chez Madame ?» Et elle avait montré Célestine. « Madame a des soirées délicieuses, et surtout, on y dîne mieux que chez moi. » Des Lupeaulx s'était laissé surprendre une promesse par la belle Madame Rabourdin qui, pour la première fois, avait levé les yeux sur lui en parlant. Et il était allé rue du Faux, n'est-ce pas tout dire ? La femme n'a qu'une ruse, s'écrit Figaro, mais elle est infaillible. En dînant chez ce simple chef de bureau, Des Lupeaulx se promit d'y dîner quelquefois. Grâce au jeu décent et convenable de la charmante femme que sa rivale, Madame Colville, surnommait la Célimène de la rue du Faux, il y dînait tous les vendredis depuis un mois et revenait de son propre mouvement prendre une tasse de thé le mercredi. Depuis quelques jours, après de savantes et fines perquisitions, Madame Rabourdin croyait avoir trouvé dans cette planche ministérielle la place d'y mettre une fois le pied. Elle ne doutait plus du succès. Sa joie intérieure ne peut être comprise que dans ces ménages d'employés où l'on a 3 ou 4 ans durant calculé le bien-être résultant d'une nomination espérée, caressée, choyée. Combien de souffrances apaisées, combien de vœux élancés vers les divinités ministérielles, combien de visites intéressées. Enfin, grâce à sa hardiesse, Madame Rabourdin entendait tinter l'heure où elle allait avoir 20 000 francs par an au lieu de 8 000. « Et je me serais bien conduite, se disait-elle. J'ai fait un peu de dépenses, mais nous ne sommes pas dans une époque où l'on va chercher les mérites qui se cachent. Tandis qu'en se mettant en vue, en restant dans le monde, en cultivant ses relations, en s'en faisant de nouvelles, un homme arrive. Après tout, les ministres et leurs amis ne s'intéressent qu'aux gens qu'ils voient, et Rabourdin ne se doute pas du monde. Si je n'avais pas entortillé ces 3 députés, ils auraient peut-être voulu la place de la billardaire, tandis que, reçus chez moi, la vergogne les prend, ils deviennent nos appuis au lieu d'être nos rivaux. J'ai fait un peu la coquette, mais je suis heureuse que les premières niaiseries avec lesquelles on amuse les hommes aient suffi. » Le jour où commença réellement une lutte inattendue à propos de cette place, après le dîner ministériel qui précédait une de ces soirées que les ministres considèrent comme publiques, Des Lupeaulx se trouvait à la cheminée auprès de la femme du ministre et, en prenant sa tasse de café, il lui arriva de comprendre encore une fois Madame Rabourdin parmi les 7 ou 8 femmes véritablement supérieures de Paris. À plusieurs reprises, il avait mis au jeu Madame Rabourdin comme le caporal Trim y mettait son bonnet. « Ne le dites pas trop, cher ami, vous lui feriez du tort, » lui dit la femme du ministre en riant à demi. « Aucune femme n'aime à entendre faire devant elle l'éloge d'une autre femme. Toutes se réservent en ce cas la parole afin de vinaigrer la louange. » « Ce pauvre Labillardère est en train de mourir, » reprit son Excellence. « Sa succession administrative revient à Rabourdin, qui est un de nos plus habiles employés et envers qui nos prédécesseurs ne se sont pas bien conduits, quoique l'un d'eux ait dû sa préfecture de police sous l'Empire à certains personnages payés pour s'intéresser à Rabourdin. « Franchement, cher ami, vous êtes encore assez jeune pour être aimé pour vous-même. » « Si la place de la billardaire est acquise à Rabourdin, je puis être cru quand je vante la supériorité de sa femme, » répliqua Des Lupeaulx en sentant l'ironie du ministre. « Mais si madame la comtesse veut en juger par elle-même, je l'inviterai à mon premier bal, n'est-ce pas? Votre femme supérieure arriverait quand j'aurai de ces dames qui viennent ici pour se moquer de nous et qui entendraient annoncer Madame Rabourdin. » Mais n'annonce-t-on pas Madame Firmiani chez le ministre des Affaires étrangères? Une femme n'est qu'à Dignan, dit vivement le nouveau comte en lançant un coup d'œil foudroyant à son secrétaire général, car ni lui ni sa femme n'étaient nobles. Beaucoup de personnes crurent qu'il s'agissait d'affaires importantes, les solliciteurs demeurèrent au fond du salon. Quand Des Lupeaulx sortit, la comtesse nouvelle dit à son mari: « Je crois Des Lupeaulx amoureux. » « Ce serait donc la première fois de sa vie, » répondit-il en haussant les épaules, comme pour dire à sa femme que Des Lupeaulx ne s'occupait point de bagatelles. Le ministre vit entrer un député du centre droit et laissa sa femme pour aller caresser une voix indécise. Mais sous le coup d'un désastre imprévu qui l'accablait, ce député voulait s'assurer une protection et venait annoncer en secret qu'il serait sous peu de jours obligé de donner sa démission. Ainsi prévenu, le ministère pouvait faire jouer ses batteries avant l'opposition. Le ministre, c'est-à-dire Des Lupeaulx, avait invité à dîner un personnage inamovible dans tous les ministères, assez embarrassé de sa personne et qui, dans son désir de prendre une contenance digne, restait planté sur ses 2 jambes réunies à la façon d'une gaine égyptienne. Ce fonctionnaire attendait près de la cheminée le moment de remercier le secrétaire général dont la retraite brusque et imprévue le surprit au moment où il allait phraser un compliment. C'était purement et simplement le caissier du ministère, le seul employé qui ne trembla jamais lors d'un changement. Dans ce temps, la Chambre ne tripotait pas mesquinement le budget comme dans le temps déplorable où nous vivons. Elle ne réduisait pas ignoblement les émoluments ministériels, elle ne faisait pas ce qu'en style de cuisine on nomme des économies de bout de chandelle. Elle accordait à chaque ministre qui prenait les affaires une indemnité dite de déplacement. Il en coûte hélas autant pour entrer au ministère que pour en sortir, et l'arrivée entraîne des frais de toute nature qu'il est peu convenable d'inventorier. Cette indemnité consistait en 25 jolis petits 1 000 francs. L'ordonnance apparaissait-elle au moniteur pendant que grands et petits, attroupés autour des poêles ou devant les cheminées, secoués par l'orage dans leur place, se disaient « Que va faire celui-là? Va-t-il augmenter le nombre des employés? Va-t-il en renvoyer 2 pour en faire rentrer 3 ?» Le paisible caissier prenait 25 beaux billets de banque, les attachait avec une épingle et gravait sur sa figure de Suisse de cathédrale une expression joyeuse. Il enfilait l'escalier des appartements et se faisait introduire chez Monseigneur à son lever par les gens qui tous confondent en un seul et même pouvoir l'argent et le gardien de l'argent, le contenant et le contenu, l'idée et la forme. Le caissier saisissait le couple ministériel à l'aurore du ravissement pendant laquelle un homme d'État est bénin et bon prince. au « Que voulez-vous ?» du ministre, il répondait par l'exhibition des chiffons, en disant qu'il s'empressait d'apporter à son excellence l'indemnité d'usage. Il en expliquait les motifs à madame, étonnée mais heureuse, et qu'il ne manquait jamais de prélever quelque chose, souvent le tout. Un déplacement est une affaire de ménage. Le caissier tournait son compliment et glissait à Monseigneur quelques phrases. Si son Excellence daignait lui conserver sa place, si elle était contente d'un service purement mécanique, si, etc. Comme un homme qui apporte 25 000 francs est toujours un digne employé, le caissier ne sortait pas sans entendre sa confirmation au poste, d'où il voyait passer, repasser et trépasser les ministres depuis 25 ans. Puis il se mettait aux ordres de madame, il apportait les 13 000 francs du mois en temps utile, il les avançait ou les retardait à commandement, et se ménageait ainsi, suivant une vieille expression monastique, une voie au chapitre. Ancien teneur de livres au trésor, quand le trésor avait des livres tenus en partie double, le sieur Saillard fut indemnisé par sa place actuelle quand on y renonça. C'était un gros et gras bonhomme, très fort sur la tenue des livres et très faible en toute autre chose. Rond comme un zéro, simple comme bonjour, qui venait à pas compter comme un éléphant et s'en allait d'eux-mêmes à la place royale où il demeurait dans le rez-de-chaussée d'un vieil hôtel à lui. Il avait pour compagnon de route M. Isidore Baudoyer, chef de bureau dans la division de M. Labillardère et partant collègue de Rabourdin, lequel avait épousé sa fille Elisabeth et avait naturellement pris un appartement au-dessus du sien. Personne ne doutait au ministère que le père Saillard ne fût une bête, mais personne n'avait jamais pu savoir jusqu'où allait sa bêtise. Elle était trop compacte pour être interrogée, elle ne sonnait pas le creux, elle absorbait tout sans rien rendre. Bissieux, un employé dont il sera bientôt question, avait fait sa charge en mettant une tête à perruque sur le haut d'un œuf et deux petites jambes dessous avec cette inscription. Né pour payer et recevoir sans jamais commettre d'erreur, un peu moins de bonheur il eût été garçon de la Banque de France, un peu plus d'ambition, il était remercié. En ce moment, le ministre regardait son caissier comme on regarde une patère ou la corniche, sans imaginer que l'ornement puisse entendre le discours ni comprendre une pensée secrète. Je tiens d'autant plus à ce que nous arrangions tout avec le préfet dans le plus profond mystère que Delupeau a des prétentions, disait le ministre au député démissionnaire. Sa bicoque est dans votre arrondissement et nous ne voulons pas de lui. Il n'a ni le sang ni l'âge, dit le député. Oui, mais vous savez ce qui a été décidé pour Casimir Perrier relativement à l'âge. Quant à la position anale, Delupeau possède quelque chose qui ne vaut pas grand-chose, mais la loi n'a pas prévu les agrandissements, et il peut acquérir. Or, les commissions ont la manche large pour les députés du centre, et nous ne pourrions pas nous opposer ostensiblement à la bonne volonté que l'on aurait pour ce cher ami. Mais où prendrait-il l'argent pour des acquisitions? Et comment Manuel a-t-il été possesseur d'une maison à Paris? S'écria le ministre. La patère écoutait, mais bien à son corps défendant. Ses vives interlocutions, quoique murmurées, aboutissaient à l'oreille de Saillard par des caprices d'acoustique encore mal observés. Savez-vous quel sentiment s'empara du bonhomme en entendant ses confidences politiques? Une terreur cuisante. Il était de ces gens naïfs qui se désespèrent de paraître écouter ce qu'ils ne doivent pas entendre, d'entrer là où ils ne sont pas appelés, de paraître hardis quand ils sont timides, curieux quand ils sont discrets. Le caissier se glissa sur le tapis de manière à se reculer, en sorte que le ministre le trouva fort loin quand il l'aperçut. Saillard était un séide ministériel incapable de la moindre indiscrétion. Si le ministre l'avait cru dans son secret, il n'aurait eu qu'à lui dire « motus ». Le caissier profita de l'affluence des courtisans, regagna un fiacre de son quartier pris à l'heure lors de ses coûteuses invitations et revint à la place royale. À l'heure où le père Saillard voyageait dans Paris, son gendre et sa chère Élisabeth étaient occupés avec l'abbé Gaudron, leur directeur, à faire un vertueux boston en compagnie de quelques voisins et d'un certain Martin Falex, fondeur en cuivre au faubourg Saint-Antoine, à qui Saillard avait prêté les fonds nécessaires pour créer un bénéficieux établissement. Ce Falex, honnête auvergnat, venu le chaudron sur le dos, avait été promptement employé chez les Brézac, grands dépeceurs de châteaux. Vers 27 ans, altéré de bien-être tout comme un autre, Martin Falex eut le bonheur d'être commandité par M. Saillard pour l'exploitation d'une découverte en fonderie. Brevet d'invention et médaille d'or à l'exposition de 1825. Madame Baudoyer, dont la fille unique marchait suivant un mot du père Saillard sur la queue de ses 12 ans, avait jeté son dévolu sur Falex, garçon trapu, noirot, actif, de probité dégourdie, dont elle faisait l'éducation. Suivant ses idées, cette éducation consistait à apprendre au petit Auvergnat à jouer au boston, à bien tenir ses cartes, à ne pas laisser voir dans son jeu, à venir chez eux rasé, les mains savonnées au gros savon ordinaire, à ne pas jurer, à parler leur français, à porter des bottes au lieu de souliers, des chemises en calicot au lieu de chemises en toile à sac, à relever ses cheveux au lieu de les tenir plats. Depuis 8 jours, Élisabeth avait décidé Falex à ôter de ses oreilles 2 énormes anneaux plats qui ressemblaient à des cerceaux. « Vous allez trop loin, Madame Baudoyer, » dit-il en la voyant heureuse de ce sacrifice. « Vous prenez sur moi trop d'emprise, vous me faites nettoyer mes dents, ce qui les ébranle, vous me ferez bientôt brosser mes ongles et friser mes cheveux, ce qui ne va pas dans notre commerce, on n'y aime pas les muscadins. » Élisabeth Baudoyer, née Saillard, est une de ces figures qui se dérobent au pinceau par leur vulgarité même, et qui néanmoins doivent être esquissées, car elles offrent une expression de cette petite bourgeoisie parisienne placée au-dessus des riches artisans et au-dessous de la haute classe, dont les qualités sont presque des vices, dont les défauts n'ont rien d'aimable, mais dont les mœurs, quoique plates, ne manquent pas d'originalité. Élisabeth avait en elle quelque chose de chétif qui faisait mal à voir. Sa taille, qui dépassait à peine 4 pieds, était si mince que sa ceinture comportait à peine une demi-aune. Ses traits fins, ramassés vers le nez, donnaient à sa figure une vague ressemblance avec le museau d'une belette. À 30 ans passés, elle paraissait n'en avoir que 16 ou 17. Ses yeux, d'un bleu de faïence opprimés par de grosses paupières unies à l'arcade des sourcils, jetaient peu d'éclat. Tout en elle était mesquin, et ses cheveux d'un blond qui terrait sur le blanc, et son front plat éclairé par des plans où le jour semblait s'arrêter, et son teint plein de tons gris presque plombés. Le bas du visage, plus triangulaire qu'ovale, terminait irrégulièrement des contours assez généralement tourmentés. Enfin, la voix offrait une assez jolie suite d'intonations aigre-douces. Élisabeth était bien la petite bourgeoise conseillant son mari le soir sur l'oreiller, n'ayant pas le moindre mérite dans ses vertus, ambitieuse sans arrière-pensée par le seul développement de l'égoïsme domestique. À la campagne, elle aurait voulu arrondir ses propriétés, dans l'administration, elle voulait avancer. Dire la vie de son père et de sa mère, dira toute la femme, en peignant l'enfance de la jeune fille. Monsieur Saillard avait épousé la fille d'un marchand de meubles, établi sous les piliers des Halles. L'exiguïté de leur fortune avait primitivement obligé M. et Mme Saillard à de constantes privations. Après 33 ans de mariage et 29 ans de travail dans les bureaux, la fortune des Saillard, leur société les nommait ainsi, consistait en 60 000 francs confiés à Falex, l'hôtel de la Place Royale acheté 40 000 francs en 1804, et 36 000 francs de dot donnés à leur fille. Dans ce capital, la succession de la veuve Bidault, mère de Madame Saillard, représentait une somme de 50 000 francs environ. Les appointements de Saillard avaient toujours été de 4 500 francs, car sa place était un vrai cul-de-sac administratif qui, pendant longtemps, ne tenta personne. Ces 90 000 francs, amassés sou à sou, provenaient donc d'économies sordides et fort inintelligemment employées. En effet, les Saillard ne connaissaient pas d'autre manière de placer leur argent que de le porter par somme de 10 000 francs chez leur notaire, M. Sorbier, prédécesseur de Cardot, et de le prêter à 5 % par première hypothèque avec subrogation dans les droits de la femme quand l'emprunteur était marié. Madame Saillard obtint en 1804 un bureau de papier timbré dont le détail détermina l'entrée d'une servante au logis. En ce moment, l'hôtel qui valait plus de 100 000 francs en remportait 8 000. Falex donnait 7 % de ses 60 000 francs, outre un partage égal des bénéfices. Ainsi, les Saillard jouissaient d'au moins 17 000 livres de rente. Toute l'ambition du bonhomme était d'avoir la croix en prenant sa retraite. La jeunesse d'Élisabeth fut un travail constant dans une famille dont les mœurs étaient si pénibles et les idées si simples. On y délibérait sur l'acquisition d'un chapeau pour Saillard, on comptait combien d'années avait duré un habit, les parapluies étaient accrochés par en haut au moyen d'une boucle en cuivre. Depuis 1804, il ne s'était pas fait une réparation à la maison. Les Saillard gardaient leur rez-de-chaussée dans l'état où le précédent propriétaire le leur avait livré. Les trumeaux étaient dédorés, les peintures des dessus de portes se voyaient à peine sous la couche de poussière qui avait mise le temps. Il conservait dans ses grandes et belles pièces à cheminées en marbre sculpté, à plafond digne de ceux de Versailles, les meubles trouvés chez la veuve Bidault. C'étaient des fauteuils en bois de noyer disjoint et couverts en tapisserie, des commodes en bois de rose, des guéridons à galeries en cuivre et à marbre blanc fendu, un superbe secrétaire de boule auquel la mode n'avait pas encore rendu sa valeur, enfin le tohu-bohu des bonnes occasions saisi par la marchande des piliers des halles. Tableaux achetés à cause de la beauté des cadres, vaisselle d'ordre composite, c'est-à-dire un dessert en magnifiques assiettes du Japon et le reste en porcelaine de toutes les paroisses, argenterie dépareillée, vieux cristaux, beaux linges damassés, lits en tombeau garnis de perses et à plumes. Au milieu de toutes ces reliques, Madame Saillard habitait une bergère d'acajou moderne, les pieds sur une chaufferette brûlée à chaque trou, près d'une cheminée pleine de cendres et sans feu, sur laquelle se voyait un cartel, des bronzes antiques, des candélabres à fleurs, mais sans bougie, car elle s'éclairait avec un martinet en cuivre, d'où s'élevait une haute chandelle cannelée par différents coulages. Madame Saillard avait un visage où, malgré ses rides, se peignaient l'entêtement et la sévérité, l'étroitesse de ses idées, une probité quadrangulaire, une religion sans pitié, une avarice naïve et la paix d'une conscience nette. Dans certains tableaux flamands, vous voyez des femmes de bourgmestre, ainsi composées par la nature et bien reproduites par le pinceau, mais elles ont de belles robes en velours ou d'étoffes précieuses, tandis que Madame Saillard n'avait pas de robe, mais ce vêtement antique nommé dans la Touraine et dans la Picardie des côtes, ou plus généralement en France des cotillons, espèce de jupe plissée derrière et sur les côtés, mise les unes sur les autres. Son corsage était serré dans un casaquin, autre mode d'un autre âge. Elle conservait le bonnet à papillons et les souliers à talons hauts. Quoiqu'elle eût 57 ans et que ses travaux obstinés au sein du ménage lui permissent bien de se reposer, elle tricotait les bas de son mari, les siens et ceux d'un oncle, comme tricotent les femmes de la campagne, en marchant, en parlant, en se promenant dans le jardin, en allant voir ce qui se passait à sa cuisine. D'abord infligée par la nécessité, l'avarice des Saillard était devenue une habitude. Au retour du bureau, le caissier menait habit bas. Il faisait lui-même le beau jardin fermé sur la cour par une grille et qu'il s'était réservé. Pendant longtemps, Élisabeth était allée le matin au marché avec sa mère et toutes deux suffisaient aux soins du ménage. La mère cuisait admirablement un canard au navet, mais selon le père Saillard, Élisabeth n'avait pas sa pareille pour savoir accommoder aux oignons les restes d'un gigot. C'était à manger son oncle sans s'en apercevoir. Aussitôt qu'Élisabeth avait su tenir une aiguille, sa mère lui avait fait raccommoder le linge de la maison et les habits de son père. Sans cesse occupée comme une servante, elle ne sortait jamais seule. Quoique demeurant à deux pas du boulevard du Temple où se trouvaient Franconi, la Gaîté, l'Ambigu Comique et plus loin la Porte Saint-Martin, Élisabeth n'était jamais allée à la Comédie. Quand elle eut la fantaisie de voir ce que c'était, avec la permission de M. Gaudron, bien entendu, M. Baudoyer l'amena par magnificence et afin de lui montrer le plus beau de tous les spectacles à l'opéra où se donnait alors le laboureur chinois. Élisabeth trouva la Comédie ennuyeuse comme les mouches et n'y voulut plus retourner. Le dimanche, après avoir cheminé quatre fois de la place royale à l'église Saint-Paul, car sa mère lui faisait pratiquer strictement les préceptes et les devoirs de la religion, son père et sa mère la conduisaient devant le café turc où ils s'asseyaient sur des chaises placées alors entre une barrière et le mur. Les Saillard se dépêchaient d'arriver les premiers afin d'être au bon endroit et se divertissaient à voir passer le monde. À cette époque, le jardin turc était le rendez-vous des élégants et élégantes du Marais, du Faubourg Saint-Antoine et lieux circonvoisins. Élisabeth n'avait jamais porté que des robes d'indienne en été, de mérinos en hiver, et les faisait elle-même. Sa mère ne lui donnait que 20 francs par mois pour son entretien, mais son père, qui l'aimait beaucoup, tempérait cette rigueur par quelques présents. Elle n'avait jamais lu ce que l'abbé Gaudron, vicaire de Saint-Paul et le conseil de la maison appelaient des livres profanes. Ce régime avait porté ses fruits. Obligée d'employer ses sentiments à une passion quelconque, Élisabeth devint âpre au gain. Elle ne manquait ni de sens ni de perspicacité, mais les idées religieuses et son ignorance ayant enveloppé ses qualités dans un cercle d'airain, elles ne s'exercèrent que sur les choses les plus vulgaires de la vie. Puis, disséminées sur peu de points, elles se portaient tout entières dans l'affaire en train. Réprimée par la dévotion, son esprit naturel dut se déployer entre les limites posées par les quatre consciences, qui sont un magasin de subtilités où l'intérêt choisit ses échappatoires. Semblable à ces saints personnages chez qui la religion n'a pas étouffé l'ambition, elle était capable de demander au prochain des actions blâmables pour en recueillir tout le fruit. Dans l'occasion, elle eût été, comme eux, implacable pour son dû, sournoise dans les moyens. Offensée, elle eût observé ses adversaires avec la perfide patience des chats et se serait ménagée quelques froides et complètes vengeances mises sur le compte du bon Dieu. Jusqu'au mariage d'Élisabeth, les Saillards vécurent sans autre société que celle de l'abbé Gaudron, prêtre auvergnat, nommé vicaire de Saint-Paul lors de la restauration du culte catholique. À cet ecclésiastique ami de feu Madame Bidault se joignait l'oncle paternel de Madame Saillard, vieux marchand de papier retiré depuis l'an 2 de la République, alors âgé de 69 ans, et qui venait les voir le dimanche seulement, parce qu'on ne faisait pas d'affaires ce jour-là. Ce petit vieillard à figure d'un teint verdâtre, prise presque tout entière par un nez rouge comme celui d'un buveur et percé de deux yeux de vautour, laissait flotter ses cheveux gris sous un tricorne, portait des culottes dont les oreilles dépassaient démesurément les boucles, des bas de coton chiné tricotés par sa nièce qu'il appelait toujours la petite Saillard, de gros souliers à boucles d'argent et une redingote multicolore. Il ressemblait beaucoup à ces petits sacristains, bedeaux, sonneurs, suisses, fossoyeurs, chantres de village, que l'on prend pour des fantaisies de caricaturistes jusqu'à ce qu'on les ait vus en personne. En ce moment, il arrivait encore à pied pour dîner et s'en retournait de même rue Greneta, où il demeurait à un troisième étage. Son métier consistait à escompter les valeurs du commerce dans le quartier Saint-Martin, où il était connu sous le sobriquet de Gigonnet à cause du mouvement fébrile et convulsif par lequel il levait la jambe. Monsieur Bidault avait commencé l'escompte dès l'an 2 avec un Hollandais, le sieur Verbrust, ami de Gosbeck. Plus tard, dans le banc de la fabrique de Saint-Paul, Saillard fit la connaissance de monsieur et madame Transon, gros négociant en poterie, établi rue de Lesdiguières, qui s'intéressèrent à Élisabeth et qui, dans l'intention de la marier, produisirent le jeune Isidore Baudoyer chez les Saillard. La liaison de monsieur et madame Baudoyer avec les Saillard se resserra par l'approbation de Gigonnet, qui pendant longtemps avait employé dans ses affaires un sieur Mitral, huissier, frère de madame Baudoyer la mère, lequel voulait alors se retirer dans une jolie maison à l'Isle-Adam. Monsieur et madame Baudoyer, père et mère d'Isidore, honnêtes mégissiers de la rue Sancier, avaient lentement fait une fortune médiocre dans un commerce routinier. Après avoir marié leur fils unique, auquel ils donnèrent 50 000 francs, ils pensèrent à vivre à la campagne et choisirent le pays de l'Isle-Adam, où ils attirèrent Mitral. Mais ils vinrent fréquemment à Paris, où ils avaient conservé un pied-à-terre dans la maison de la rue Sancier, donnée en dot à Isidore. Les Baudoyers jouissaient encore de 1 000 écus de rente après avoir doté leur fils. Monsieur Mitral, homme à perruque sinistre, à visage de la couleur de la Seine et où brillaient deux yeux tabac d'Espagne, froid comme une corde à puits et sentant la souris, gardait le secret sur sa fortune, mais il devait opérer dans son coin comme Verbrust et Gigonnet opéraient dans le quartier Saint-Martin. Si le cercle de cette famille s'étendit, ni ses idées ni ses mœurs ne changèrent. On fêtait les saints du père, de la mère, du gendre, de la fille et de la petite fille, l'anniversaire des naissances et des mariages, Pâques, Noël, le premier jour de l'an et les rois. Ces fêtes occasionnaient de grands balayages et un nettoiement universel au logis, ce qui ajoutait l'utilité aux douceurs de ces cérémonies domestiques. Puis s'offraient en grande pompe et avec accompagnement de bouquets des cadeaux utiles, une paire de bas de soie ou un bonnet à poil pour Saillard, des boucles d'or, un plat d'argent pour Élisabeth ou pour son mari, à qui l'on faisait peu à peu un service de vaisselle plate, des cottes en soie à Madame Saillard qui les gardait en pièces. À propos du présent, on asseyait le gratifié dans un fauteuil en lui disant pendant un certain temps « Devine ce que nous t'allons donner ». Enfin, s'entamait un dîner splendide de 5 heures de durée, auquel étaient conviés l'abbé Gaudron, Falex, Rabourdin, M. Godard, jadis sous-chef de M. Baudoyer, M. Bataille, capitaine de la compagnie à laquelle appartenaient le gendre et le beau-père. M. Cardon faisait comme Rabourdin, il acceptait une invitation sur 6. On chantait au dessert, l'on s'embrassait avec enthousiasme en se souhaitant tous les bonheurs possibles, et l'on exposait les cadeaux en demandant leur avis à tous les invités. Le jour du poney à poil, Saillard l'avait gardé sur la tête pendant le dessert, à la satisfaction générale. Le soir, les simples connaissances venaient et il y avait bal. On dansait longtemps au son d'un unique violon, mais depuis 6 ans, M. Godard, grand joueur de flûte, contribuait à la fête par l'addition d'un perçant flageolet. La cuisinière et la bonne de Madame Baudoyer, la vieille Catherine, servante de Madame Saillard, le potier ou sa femme faisaient galerie à la porte du salon. Les domestiques recevaient un écu de 3 livres pour s'acheter du vin et du café. Cette société considérait Baudoyer et Saillard comme des hommes transcendants. Ils étaient employés par le gouvernement, ils avaient percé par leur mérite, ils travaillaient, disait-on, avec le ministre, ils devaient leur fortune à leur talent, ils étaient des hommes politiques. Mais Baudoyer passait pour le plus capable. Sa place de chef de bureau supposait des travaux beaucoup plus compliqués, plus ardus que ceux de la tenue d'une caisse. Puis, quoique fils d'un mégissier de la rue Censier, Isidore avait eu le génie de faire des études, l'audace de renoncer à l'établissement de son père pour aborder les bureaux où il était parvenu à un poste éminent. Enfin, peu communicatif, on le regardait comme un profond penseur et peut-être, disaient les tronçons, deviendra-t-il quelque jour le député du 8e arrondissement. En entendant ces propos, il arrivait souvent à gigonner de pincer ses lèvres, déjà si pincées, et de jeter un coup d'œil à sa petite nièce Élisabeth.